Bonjour, c'est Anne Goscinny, vous écoutez Pop 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 et je pense que vous allez vous éclater comme moi je viens de m'éclater. Pop Pop Pop, c'est parti!
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Jamais cette phrase rituelle que je prononce jour après jour en ouverture de cette émission n'aura trouvé meilleure justification. Car aujourd'hui, ce n'est pas une pop-popienne que nous recevons, pas plus qu'un pop-popien. Ni même un de ces fameux autres aussi, intitulés suffisamment vagues pour inclure non seulement ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, mais également certains quadrupèdes dont les propriétaires nous ont confié que leurs fidèles compagnons nous écoutaient chaque jour attentivement. Notamment un certain Kiki, le Kiki en question, n'en ayant paradoxalement plus de Kiki depuis une rencontre malheureuse avec une tondeuse à gazon. Enfin bon, notre invité revendique le droit de n'appartenir à aucun des deux genres majeurs, l'homme, Charline Roux, ou la femme, moi. Mais aux deux, voire plus, née femme, il, elle, a refusé cette assignation de maman nature pour devenir un homme, ou plus exactement un homme en devenir. L'occasion ou jamais d'updater notre curiosité et de faire le point sur la confusion des genres pour tous ceux qui, comme moi, je l'avoue, en sont restés aux règles du jeu de l'amour et du hasard, si magnifiquement illustrées par Marivaux. Mais bon, ça, c'était avant la Révolution, bien sûr. Paul B. Preciado est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paul.
Bonjour Paul B. Preciado.
Bonjour.
Bonjour, à mes côtés l'homme ou la femme, qui peut le dire, qui partage ma vie radiophonique.
Est-ce que ça a une importance? Mais bonjour non, Antoine, aucune... bonjour Paul.
Bonjour Charline. Bonjour. Charline Paul, Paul Charline, au menu également de Pop Pop Pop, elle.
Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire.
Aloïs Sauvage qui sera en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop, mais avant ça, mon cher Paul B. Preciado, ici il existe une question encore plus vicelarde qu'une réplique de Gérard Langue de Pute, et cette question c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses préciadonnantes, catalonneuses ou même hermaphrodisiaques, et parmi mes préférées, il y a celle de la chanteuse slash chanteur Rouge Marie. Écoutez...
La pop culture, ça pourrait être comme un tsunami artistique pour toucher un maximum de gens. Mais moi, je la vois pas comme ça. Je vois plutôt la pop culture comme un stérilet.
Ah oui.
Oui, c'est quelque chose qu'on a. Pardon. C'est quelque chose qu'on a toujours sur soi et on a oublié qu'on l'a.
Voilà pas pour mal. Rouge Barry. Et pour vous, Paul, c'est quoi la pop culture?
Ouais, pour moi, peut-être c'est comme une armée. Anti-hégémonie, peut-être, parce qu'en fait, bon, j'étais éduqué très très catholique, donc évidemment la pop culture était les récits quand j'étais enfant, et était vraiment tout ce qui venait de la pop culture était interdit. Ouais. Donc pour moi, c'était les désirs absolus.
Donc la pop culture, c'est le désir. Vous voyez, depuis le temps que je vous le dis, Charline.
Mais je vous crois, moi.
La pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après ce morceau Be Honest du pape Pop Kiddy Smile.
Days trying hard to get your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. We'll be right back.
Be Honest, Kid Ismael, cet extrait de l'album One Trick Pony. Et si vous dansez au volant de votre voiture, évitez s'il vous plaît les sorties de route. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un invité qui n'aime pas qu'on le range dans des cases, mais qui est donc cet invité mystérieux, réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Paul, c'est votre portrait bien sûr, mais...
Ok.
À base de pop, pop, pop. Et il est signé Charline...
Aujourd'hui, un invité qui déclare « La question de l'identité ne m'intéresse pas, je ne me sens ni espagnol, ni français, ni catholique, ni homme ». Alors, ce qui, je ne vous le cache pas, dans l'exercice du portrait, me complique considérablement la tâche. Mais qui, sur le plan des idées, est une perspective aussi intrigante que passionnante. Notre invité est presque un pur esprit, brillant et affûté, commissaire d'exposition, exerçant d'abord dans l'art contemporain, avant d'interroger philosophiquement les nouvelles technologies du corps, de réfléchir, de critiquer les normes, qu'elles soient sexuelles, de genre, de race. Notre invité a publié 3 ouvrages, Manifeste contrasexuel, revendiquant la dissolution des sexes, Testo Junkie, qui fait l'examen et le récit intime d'un protocole volontaire d'ingestion de testostérone sur le corps biologique d'une femme, et aujourd'hui un appartement sur Uranus rassemblant ses chroniques pour Libération. Si le corps est une fiction, que nous raconte-t-il? Eh bien, si aujourd'hui on pose la question, je vous saurais gré de ne pas vous intéresser au mien. J'ai un peu abusé dernièrement.
Ah bon? Alors, ni espagnol, ni français, ni catholique, ni homme?
Ouais, bah forcément, en fait, j'ai la chance d'avoir un passeport européen, ce qui n'a pas toujours été exactement le cas, puisqu'à un moment donné, en fait, il y avait un passeport féminin qui ne me permettait plus de traverser les frontières.
Alors, qu'est-ce qui est écrit aujourd'hui sur ce passeport?
Paul Béatrice, comme nom masculin, parce que mon avocate a plaidé, enfin, pour moi, pour avoir ce nom en tant que nom masculin, alors que les juges étaient vraiment, ils étaient dégoûtés, en fait, à l'idée que ça soit vraiment un nom masculin. Donc, c'est écrit Paul Béatrice Preciado et homme, voilà.
Ok. Bah,
mais
voilà.
Homme, qui je considère en fait encore aujourd'hui comme un acte de discrimination.
Ok. Alors, attendez, Paul, on va y revenir.
Ouais.
Paul B. Preciado, vous n'êtes pas tout ce que vous voulez, ne voulez pas être, mais une chose est sûre, vous êtes pop. La preuve avec votre pop liste. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est le rapport contre la normalité publié en 71. Charline, vous qui piquez si souvent des phares, pouvez-vous nous rappeler de quoi parlait ce phare-là?
C'est un manifeste contenant des tribunes, des témoignages, des dessins soutenant des revendications et des actions des communautés LGBT. 120 pages où il est question, entre autres, de psychiatrisation de l'homosexualité, de la répression depuis Pétain et De Gaulle ou encore des rapports entre homosexuels. Sexualité masculine puis féminine.
Bien. Alors d'habitude, Paul, je demande à l'invité de lire un extrait de livre, mais vous me dites non, moi je ne lis pas, je ne sais pas lire, je suis un mauvais lecteur, donc je lis à votre place.
Merci.
Un extrait de livre que vous avez choisi.
Ça vous fera du bien, de toute façon.
Bon, voilà. Très bien.
Incarnez ça, incarnez.
Je vais incarner. J'ouvre les guillemets. Vous ne vous sentez pas oppresseur, vous baisez comme tout le monde, ça n'est pas votre faute s'il y a des malades ou des criminels, vous n'y pouvez rien, dites-vous, si vous êtes tolérant, votre société, car si vous baisez comme tout le monde, c'est bien la vôtre, nous a traités comme un fléau social pour l'État, l'objet de mépris pour les hommes véritables, sujet d'effroi pour les mères de famille. Les mêmes mots qui servent à nous désigner sont vos pires insultes. Avez-vous jamais pensé à ce que nous ressentons quand vous mettez à la suite ces mots, salaud, ordure, tapette, pédé, quand vous dites à une fille, salgouine, vous protégez vos filles et vos fils de notre présence comme si nous étions des pestiférés. Vous êtes individuellement responsable de l'ignoble mutilation que vous nous avez fait subir en nous reprochant notre désir. Maintenant, expliquez-moi ça, Paul. Pourquoi ce livre-là?
Pas parce qu'il est génial, en fait. Il nous a permis de penser la sexualité autrement. De penser la sexualité pas simplement comme une pratique sexuelle, mais comme un régime politique. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour la première fois, ils se sont dit, même la gauche et la gauche la plus radicale est homophobe, est transphobe, est lesbophobe, puisqu'en plus, souvent, en fait, on va penser la révolution comme une transformation des modes de production. Mmh. Et donc, voilà, la gauche est toujours pour la révolution, mais surtout, ne touchez pas à la sexualité et au sexe. Mmh. Ça, vraiment, c'est rester dans les domaines de la nature.
Le tabou.
Et voilà. mais aussi en fait naturalisé. Mm-hmm. Alors qu'en fait, voilà, les phares, aussi les Wing Rouge, Monique Wittig, Guy Hockenheim, se sont dit, dans les années 70, se sont dit, bah, absolument pas, au centre de cette tâche de normalisation politique est la sexualité, mm-hmm. et votre corps, et les corps occupent aujourd'hui les lieux qu'avait Lucine au 19e siècle. Donc ça sert à rien de continuer à parler des prolétariens, oui. Parlons des révolutionnaires somatopolitiques, des corps révolutionnés, en révolution.
D'accord, alors très bien, j'ai mon livre, de chevet dans lequel je vais me plonger et réciproquement dès ce soir.
Non mais c'est très facile, oui, c'est très facile à lire, hein. Ça paraît pas, mais en réalité on peut les mettre dans la poche de n'importe qui, en fait ça, c'est un livre...
On va le glisser, voilà, dans très quelques pages, je comptais sur, ouais. Nous. Bien, alors passons au film. Pour le film, vous avez choisi Action Mutante de Alex de la Iglesia, c'est un film espagnol de 1993. Charline, vous aimez l'action, vous êtes, mm-hmm. une espèce de mutante, hein, comme dit mon oncle. Rappelez-nous de quoi parle ce film.
Il se situe dans le futur, soit 2012. La société exclut les handicapés et les personnes considérées comme disgracieuses. Le groupe Action Mutante, composé de ces marginaux et mené par Ramon Ñárritu, décide de passer à l'action en enlevant Patricia, la fille d'un riche industriel.
Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. Ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo.
Une comédie romantique, comme on l'aura compris. Bah, perché questa pellicola, Paul?
Parce que... Bah, c'était une autre manière justement de penser la révolution. Est-ce que, bah, je pense que j'étais évidemment très marqué par le fait que je suis né à la fin en fait de la dictature de Franco, et que du coup on est assisté vraiment à la movida, qu'on a pensé que ça c'était vraiment la liberté qui arrivait, et au lieu de la liberté, ce qu'on a eu c'est les libres marchés. Mmh. Et du coup il y avait plus de liberté. Et en même temps justement au milieu des années 80, tout d'un coup, voilà en fait que quelqu'un imaginait la révolution. Pas uniquement en fait comme justement comme la révolution de la gauche, mais la révolution des abjects, la révolution, mmh. en fait des corps qui étaient totalement exclus de la société, mmh. et en fait je suis encore voilà, j'appelle encore une action mutante en fait, mmh. Voilà, une révolution des corps qui ont absolument pas lieu dans cette société.
On va enlever qui?
Bah, à peu près tout le monde, puisque en fait, en réalité, très tôt, c'est-à-dire, on commence par être un corps bébé, donc incapable de se nourrir, et on va finir petit à petit par vieillir. Mmh. Donc, on est fondamentalement un corps mortel et vulnérable. Sauf que l'imaginaire politique a construit cette idée, cette fiction, en fait, d'un corps viril, surpuissant, mais ces corps-là, ils n'existent pas en réalité. Mmh, voilà, si, on peut tous commencer. Bah, peut-être.
Sauf Antoine,
qu'on voit très, très.
Bon, alors, j'ai mon film que je pose sur mon livre, hein, tout ça à consulter ce soir. Maintenant, Paul B. Preciado, nous vous avons demandé de choisir une série et spontanément, vous avez répondu Osmosis.
Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour?
Avec l'aide de Martin, notre intelligence artificielle, j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur.
Mais alors, là où ça devient marrant, c'est que vous précisez que c'est un choix par défaut parce que vous n'avez pas le temps de regarder des séries et que celle-ci, la dernière que vous avez aperçue, ne vous a pas plu. Donc, je vous demande, pourquoi n'aimez-vous pas Osmosis? Qui passe sur
Netflix, c'est une série Netflix.
Non, c'est pas que je l'ai pas aimé. En fait, il y a des choses que j'ai bien aimées. Donc notamment le fait effectivement qu'on va intervenir dans la subjectivité à travers la prise en fait pharmacologique, donc une pilule. Donc c'est quelque chose qui pour moi est au centre de mon travail justement, les technologies pharmacologiques. Mm-hmm. Donc ça m'intéresse énormément. Après, est-ce que j'étais très déçu parce que je me suis dit bon, si c'est finalement pour aimer, enfin pour finir en fait dans les mariages hétérosexuels ou homosexuels, mm-hmm. monogames, mm-hmm. bon enfin bref, pour ça on n'a pas besoin d'une pilule révolutionnaire, pour ça on avait déjà la Bible, enfin la Bible on va dire réadaptée à peu près, mais voilà, donc j'étais très déçu, il y a pas vraiment, enfin je m'attendais, peut-être je suis quand même fou, mais je m'attendais à la zoophilie, à l'amour avec la nature, voilà, la passion, osmosis justement sociale, collective,
total, ouais.
La coopération somatique, sexuelle totale.
Eh ben non, c'était pas ça.
Mais non, c'était pas ça.
Bon, voilà. Et à propos de série, Paul, est-ce que vous faites partie des rares humains qui ont réussi à échapper au rouleau compresseur Game of Thrones cette nuit?
Non, j'ai regardé.
Ah,
j'ai regardé, bien sûr. Mais en même temps, c'est vrai que maintenant, enfin, bah justement, comme je suis en train de préparer la biennale de Venise, en fait, avec pour le pavillon de Taïwan, on va dire qu'on fait notre propre série, parce qu'on a fait 11 petits films, et des coups, on était tellement dans notre propre truc que je pouvais pas, en fait, voilà, me plonger dans sous notre série, mais ouais, je vais en venir quand même à un moment donné. je vais attendre en fait que la folie passe un peu, et voilà.
Et Charline vous fera un petit récapitulatif parce qu'elle a fait des remarquables podcasts que tout le monde a écoutés.
Merci,
bien sûr.
Patron.
Sauf moi donc. Paul B. Fresciado, terminons cette pop list avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci. Mais gusta ser una zorra, soit j'aime être une chienne, hein, dans la traduction de Jean d'Ormesson. Ce n'est pas une déclaration, mais le titre du morceau de Las Vulpes, soit un groupe punk espagnol exclusivement féminin du début des années 80.
Ouais.
Voilà, c'est ce que vous préférez au monde, cette chanson-là?
Non, c'est pas ce que je préfère au monde, mais c'est ce qui, à un moment donné, m'a sauvé quand même la vie. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que à un moment donné, dans les années 80, il y avait beaucoup de groupes punk, mais exclusivement masculins, avec, évidemment, il y avait Extremoduro, il y avait vraiment la Polla Records, donc, vous voyez, Records, la Beat, enfin, c'était des trucs vraiment très, très masculins. Enfin, évidemment, je dis ça maintenant avec cette incarnation qu'est la mienne, donc tout est quand même un peu compliqué à comprendre, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, c'était génial. Il y avait quatre filles, en fait, qui étaient en train de chanter, j'aime bien être une salope, et voilà, elles étaient du Pays Basque, d'à côté où j'habitais. Et pour nous, enfin, on allait à l'école, on chantait ça, c'était incroyable, on se faisait renvoyer à la maison immédiatement. mais c'était vraiment génial, quoi. Donc ça reste quand même... c'est un hymne, en fait, ça reste totalement valable aujourd'hui, je pense.
Bien, alors je résume, Paul, Front homosexuel d'Action révolutionnaire pour le livre, Action moutante pour le film, Osmosis et J'aime être chienne, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ben ça nous donne ça.
Bienvenue dans Osmosis. Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'est vraiment l'amour?
Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra.
Vous êtes individuellement responsable de l'ignoble mutilation que vous nous avez fait subir.
Nos trató como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo.
Avec l'aide de Martin, notre intelligence artificielle, j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur.
Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo.
Paul B. Fresciado, c'est votre ADN sonore, ce qu'on vient d'entendre?
C'est pas mal, en fait. J'ai pas mal aimé, en fait, le mélange. C'était Osmosis et ma révolution avec Action Moutante, c'était pas mal.
Ah, ouais. Ok, très bien. Alors continuons. Paul, dans la suite de Pop Pop Pop, on va parler d'un appartement sur Uranus, votre livre. Mais avant ça, on écoute Small Town Boy, remixé par Arnaud Robotini. Bronski Beat, Small Town Boy, c'est remixé par Arnaud Robotini, c'est dans Pop 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 sur France Inter, et c'est extrait du film 120 battements par minute, film dans lequel joue Aloïs Sauvage, qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant ça, Paul B. Preciado, parlons d'un appartement sur Uranus, édité chez Grasset et préfacé par Virginie Despentes. Il s'agit d'un recueil d'articles écrits pour le journal Libération entre 2013 et 2018. On pourrait dire le journal d'une transition et d'une transformation, non pas simple et classique de femme à homme, mais comme le dit Virginie Despentes dans sa préface, vers un genre utopique. Est-ce que vous pouvez nous définir ce genre utopique pour tous ceux qui savent bien qu'il y a des pop-opiennes, des pop-opiens et puis les autres aussi?
Je pense que pour chacun, les genres utopiques, forcément, va être différent. Donc, je peux peut-être parler du mien, mais pour moi, en fait, c'est plutôt rentrer dans un processus d'expérimentation sur ma propre subjectivité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça, en fait, que j'ai dit que l'identité m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, n'est pas du tout, en fait, être trans ou être homme, mais plutôt comment je pourrais éventuellement fabriquer la liberté. À chaque fois. Donc, trouver la manière dans laquelle, enfin, par des pratiques, trouver une stratégie de désidentification critique. Et donc, là, dans l'occurrence, en fait, c'est, voilà, dans cette incarnation, avec un passeport masculin, en même temps, être homme trans, qui est quand même, il faut dire, on n'existait pas réellement, en fait, par rapport à la loi, par rapport à l'anatomie. L'anatomie, mon corps n'existait pas dans l'anatomie.
Vous êtes dans un no man's land.
Pour l'instant, oui. Parce qu'en fait, on existe en tant que corps vivant, mais on n'est pas totalement reconnu par la loi en tant que sujet politique total. On est reconnu en tant que soi, en tant que dysphorique du genre, malade mental, ou bien, effectivement, quelqu'un, enfin, on va être reconnu par rapport justement aux institutions médicales et juridiques, en fait. Donc, il faut s'adapter. Par exemple, dans mon cas, si je vais, en fait, avoir un passeport masculin, bah, il faut faire un examen des masculinités. Ouais. Ça, vous plairait beaucoup parce que c'est très pop-pop-pop. Donc, il faut faire un examen des masculinités, être un bon messieurs, quoi, bon messieurs. Donc, il faut pas dire trop de conneries, il faut pas dire qu'on va s'opposer vraiment à la masculinité patriarcale, parce que sinon, ça passe pas, quoi.
Vous dites que plutôt que de défendre ce que nous sommes, hommes ou femmes, il est urgent de se désidentifier de la norme. En quoi est-ce que c'est urgent et en quoi ce sera salvateur?
Moi, je pense que c'est urgent, mais pas uniquement par rapport à la masculinité et à la féminité. Moi, je pense que c'est urgent de s'identifier par rapport aussi, par exemple, à l'hétérosexualité, à l'homosexualité, par rapport à la nationalité. C'est-à-dire qu'on est dans l'ivresse de l'identité maintenant. C'est une folie. On trouve uniquement des sens à la vie et à soi-même, en fait, à travers l'identification. C'est la même chose, en fait, en Espagne, dans l'espagnolisme, les catalanismes. Mais en réalité, en France, c'est pareil. En fait, on a vraiment ces questions de l'identité au centre. Donc, pour moi, vraiment, c'est vraiment un exercice constant. Après, je sais pas, en fait, peut-être qu'il y a des moments, en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas, parfois, de ces stratégies, des hyper-identifications, justement, pour sortir de l'invisibilité. C'est-à-dire que peut-être, en fait, ça marche pas dans tous les sens. C'est-à-dire, si vous êtes blanc, vous pouvez pas dire, en fait, ah ouais, mon identité, je m'en fous. Vous voyez, tu t'en fous, mais en réalité, t'es blanc, donc t'as un certain nombre de privilèges. Alors que la personne qui n'est pas blanche dans les contextes français, bah, elle est, dans un rapport de racisme. Donc, pour moi, ce que je voudrais, en fait, c'est, au lieu de penser, à l'identité, penser au rapport de pouvoir. Essayer, en fait, de commencer à travailler ces rapports de pouvoir, au lieu de constamment se dire, en fait, non mais moi je suis hétéro, moi je suis blanc, moi je suis... Ouais, bah, enfin, on va pas avancer.
Vous dites aussi de vous, Paul, que vous êtes un uraniste, soit un résident de la lointaine planète Uranus, terme inventé au 19e siècle par Karl Heinrich Ulrich, un juriste et scientifique allemand, pour désigner les amours de ce qu'on appelait pudiquement à l'époque les amours du troisième sexe. Troisième sexe, dont vous rappelez fort à propos qu'à l'époque d'Ulrich, on pendait ses pratiquants en Prusse comme en Angleterre, et qu'il reste illégal dans 74 pays et qu'il entraîne la peine de mort dans 13 d'entre eux.
Oui, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité pour l'homosexualité. Souvent, l'homosexualité masculine, parce que l'homosexualité féminine, elle reste parfois invisible. Donc, la répression passe peut-être autrement, à travers la famille, à travers les clans, à travers la société, mais pas, elle n'est pas punie par la loi. Mais aussi, en fait, cette répression, elle est aussi dans les régimes binaires du genre. C'est-à-dire qu'en fait, quand un enfant est bien au monde, on n'est pas capable de les reconnaître en tant qu'être vivant, en tant que corps vivant, sans assigner immédiatement un genre masculin ou féminin. Et on sait bien en fait qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose que la médecine sait depuis les années 40, qu'il y a un ensemble des enfants qui sont nés qui ne peuvent pas en fait être assignés immédiatement à la masculinité ou la féminité, et donc qui vont suivre tout un ensemble des opérations, des mutilations génitales pour reconstruire la binarité. Ouais. Et donc moi j'appartiens en fait à un mouvement critique des féministes queer, des philosophes trans, justement, qui appellent à la transformation de ce paradigme de la binarité sexuelle vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui soit capable de reconnaître la multiplicité du vivant.
Et vous dites dans l'un de vos articles que l'homosexualité comme la transsexualité d'ailleurs sont des snipers et que vous avez senti pour la première fois, je vous cite, le poids de la balle quand vous aviez 3 ans.
Oui, je l'ai senti parce qu'en fait... Enfin, c'est dur à dire, mais la réalité, c'est que mon père, moi, j'étais très, très, très petit. Hein, j'étais vraiment un enfant. Et mon père a dit, si, en regardant en fait deux filles qui se tenaient par la main, il a dit en fait, si j'avais un enfant, s'il y avait un enfant ou un fils homosexuel, je préfère les tuer. Et donc, à ce moment-là, j'étais vraiment un enfant, je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'était l'homosexualité, ni avait aucun désir sexuel ou autre, enfin, désir, certes, pour la vie, mais pas pour la sexualité. Et à ce moment-là, j'ai senti, effectivement, comme vraiment une balle qui m'a traversé la poitrine, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris ça, quelques temps après, évidemment, quand les bronceurs, ils ont commencé à appeler mes parents pour dire, ouais, ben, la fille va pas bien, enfin, apparemment, voilà, elle s'est marié avec sa meilleure amie, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous faites à la maison?
Vous parlez aussi du corps comme d'une archive politique, je cite, fabriquée non seulement par le patriarcat ou par la médecine, mais aussi par les représentations artistiques, audiovisuelles, par les institutions, par le marché. Comme c'est notre sujet d'étude ici, la culture et donc la pop culture ont une part de responsabilité sur cette forme d'aliénation, selon vous?
Ouais, totalement, en fait. On pourrait dire en fait que les corps, c'est pop-pop-pop. Parce qu'en fait, il n'est pas vraiment uniquement dans les pressions. Et il n'est pas construit, c'est pas justement un objet anatomique. L'anatomie n'est qu'une des fictions qu'ont construit les corps, dont la modernité à partir du 15e siècle par les discours médicaux. Mais il y a des milliers de fictions. Et c'est pour ça, par exemple, on parlait maintenant des Games of Thrones. Bah, quelle est l'importance? C'est que tout d'un coup, justement, avec les réseaux sociaux, avec les séries, avec la pop culture, ces représentations-là sont plus importantes que les représentations normatives de la médecine et de la science. Et donc c'est là, la lutte aujourd'hui ne se pose plus entre les discours religieux et la science, comme au 15e siècle, mais elle se pose vraiment entre effectivement les discours scientifiques et les représentations scientifiques et les représentations de la pop culture. Dès là que, par exemple, quelqu'un comme moi, je travaille beaucoup avec les artistes, parce que je considère en fait que c'est les artistes que justement voient transformer, défaire, retravailler cette archive politique vivante qu'est les corps.
Pour revenir à cette idée de ce genre utopique qu'évoque Despentes, vous l'incarnez sans attendre des lendemains qui chantent en transformant votre corps, en vous auto-administrant par exemple de la testostérone. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Paul, de représenter le meilleur des deux mondes, d'appartenir plus à l'un qu'à l'autre ou bien d'être à l'avant-garde d'une tendance qui deviendra peut-être un jour une nouvelle norme?
Moi je pense, le problème c'est que... je vois en fait que vous êtes encore dans les paradigmes binaires. Et vous avez beaucoup de mal à sortir de ça. Et moi, par exemple, en fait, quand je vous regarde, je ne vois pas du tout un homme et une femme.
Vous quoi?
Parce que pour moi, ça serait totalement réducteur. Je vous vois comme deux corps vivants, en fait, devant moi, en train de bouger. Je ne peux pas vous regarder.
Vous parlez de Charlie et de moi, parce que...
Ouais, tout à fait, mais ouais, parce que vous êtes deux, parce que peut-être les spectateurs, enfin les auditeurs ne vous voient pas. Mais pour moi, ça serait vraiment totalement réducteur. C'est comme si à chaque fois que je m'adressais à quelqu'un qui n'est pas blanc, je voyais uniquement une personne noire ou une personne blanche. Pour moi, c'est une aberration. Donc, effectivement... les meilleurs de deux mondes, je sais pas, moi je pense que j'ai vraiment, parce que quelqu'un me disait l'autre jour aussi, en fait 50-50, et encore je me dis, mais ouais, cette géométrie vraiment de la différence sexuelle, elle est folle, hein, vraiment. Et moi je dirais que j'ai vraiment, je dirais 10% végétal, 10% minéral, 10% animal, peut-être 10% avec la testostérone, peut-être 12% masculin, quelque chose qui me reste encore de la féminité, bah on va dire 14, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'organes que c'est malade par là que je vais pas totalement enlever. Voilà, donc il y a beaucoup en fait justement, des archives politiques vivantes différentes qui sont pas uniquement de la féminité et la masculinité.
Mais justement, d'ailleurs, vous dites que les femmes, c'est pas une nature, c'est une minorité politique.
Oui, mais pas en nombre.
Non, bien sûr. Voilà, en conception.
C'est très important. Ouais. C'est-à-dire que les femmes, pour l'instant, même s'ils ont été inventées en tant que sujet politique au XVIIIe siècle, chose qui paraît vraiment une folie, mais c'est la réalité. C'est pour ça que je travaille avec l'histoire comme si je travaillais avec la science-fiction. Parce que l'histoire, elle est encore en fait plus pop-pop-pop en fait que la science-fiction. Hein. Donc, effectivement, les femmes, encore aujourd'hui, sont en train de lutter pour arriver à la citoyenneté totale. Mais vous avez quand même un petit problème, parce que on a un petit problème, moi je l'avais aussi, mais je l'utilise pas trop, maintenant il est un peu oxydé, on va dire. Voilà, c'est qu'on a un organe à l'intérieur de nous, qui est un organe quand même biopolitique, c'est-à-dire l'organe des reproductions de la vie, et donc effectivement c'est très convoité par les pouvoirs public. Hein.
juste pour finir, Paul, répondez-moi très brièvement, c'est une question personnelle que je me pose, finalement est-ce que l'homme est une femme comme les autres ?
Moi je dirais que pour moi l'homme est plutôt un animal comme les autres en fait. Hein. Pour moi en fait, moi c'est la notion d'animalité qui m'intéresse plus que celle de masculin et féminin, parce que je la trouve c'est très réducteur. Ouais.
Parfait, j'ai ma réponse. vous savez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça? Ah, non, attendez, il faut pas répondre comme Rouge Marie. Écoutez ce que vous savez faire ça.
Pas avec mon doigt.
Rouge Marie dans le texte. Donc en fait, hein, voilà.
Vous savez le faire, vous ?
Non.
Alors, non, du coup, vous avez pu le faire. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour lancer les pop news.
Pas aussi bien, en tout cas.
Oh, ne tentez pas de le cacher, je vous ai désemparé par l'arrêt imminent de Game of Thrones, par la fin annoncée de la franchise Avengers, mais que reste-t-il, vous écriez-vous, non sans vous autoflageller avec du pop-corn ? Eh bien, il reste Star Wars, bien sûr, la bande-annonce de l'épisode 9, chronologie de la saga et des sorties, ouf, eh ben ça vient d'être dévoilé. C'est de nouveau réalisé par J.J. Abrams, on y retrouve Rey et Kylo Ren, ça s'appelle The Rise of Skywalker, ambiance. And may the force be with you, en attendant la sortie le 18 décembre.
La reprise du jour, c'est au raconteur qu'on la doit. On le sait, le groupe mené par Jack White s'apprête à publier un tout nouvel album. Mais pour patienter, le groupe vient de poster sur le Bandcamp de Third Man Records un titre de Donovan datant de 65, Egypt Dick the Slowness. Dig the Slowness et Help Us Stranger, c'est le troisième album des raconteurs, il sortira le 21 juin lui.
Conservatory, deuxième édition, c'est parti pour les candidatures. 10 jours de coaching, d'atelier, de répétition et à la clé un concert donné par tous les participants avec le maestro Gonzalez.
This year, I am proud to present the second conservatory. So hear my call once again. Applications are now open for the conservatory.
C'est accessible à tous les musiciens de plus de 18 ans qui composent et qui interprètent leurs propres morceaux. Cette année, c'est à Cologne que la formation aura lieu. Vous avez jusqu'au 1er mai pour postuler. Préparez vos vidéos et rendez-vous sur le site de Chili Gonzalez.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Merci, Charlene.
Je l'ai pas.
C'est moi, mais c'est quand je tape un peu fort sur les stéroïdes.
Bon, avant d'accueillir Aloïse Sauvage, écoutons-la debout avec le morceau à l'horizontale.
Tête à demi penchée, semi-remorque. Les fous prennent tous les risques. Les fluves de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Tremper ses lèvres ou tempérer la fièvre. Appuyer sur ma clavicule, légèrement tourner vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras m'entourent, mais t'entoure. Je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'a donné à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scéno, moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant. Le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te reconnaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
À l'horizontale, dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau signé Aloïse Sauvage. Bonjour Aloïse Sauvage.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez plusieurs casquettes Aloïse et c'est drôle pour une rappeuse. Ok. Vous êtes actrice, musicienne, danseuse, acrobate et chanteuse. Vous portez laquelle aujourd'hui de casquette?
Chanteuse.
Chanteuse?
Ouais, bah j'ai l'impression de les porter toutes en même temps,
voilà,
chaque jour.
Voilà, je pose la question. Voilà. Vous avez l'impression que c'est un seul et même métier tout ça?
Pour moi, oui. Oui, on me pose tout le temps la question, mais sur scène, ce qui compte, c'est l'endroit scénique, et puis ce que j'exprime, et puis oui, ce que j'essaye d'y fabriquer. Du coup, je danse, je chante, je joue, j'ai l'impression que ouais, tout se relie, quoi, et tout, et j'essaye que ce soit,
donc
ça me ressemble en tout cas.
La scène avec la chanson, c'est l'aboutissement d'une certaine manière de tout ce travail de formation avant?
En tout cas, je l'avais pas conscientisé avant, mais je le vois là, je le remarque que oui, ce projet musical, ça me permet de tout rassembler. Donc j'espère qu'à moyen long terme, je vais pouvoir un peu finalement, oui, créer le spectacle que je fantasmais des années auparavant sans penser que j'allais devenir chanteuse.
Là, parce que cette avidité artistique remonte à très longtemps déjà, enfin très longtemps, vous êtes très jeune, mais à votre enfance, une enfance durant laquelle, question activité périscolaire, votre carnet de bal était quand même bien rempli, hein, breakdance, théâtre, cirque, conservatoire, mais conservatoire, pas un seul instrument, non, 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 flûte traversière, saxophone, batterie. Est-ce que l'inactivité vous ferait pas un petit peu flipper en fait?
Oui, peut-être, c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de m'ennuyer, il paraît que c'est bien et que c'est important, mais oui, j'ai du mal à... Vous voyez, je suis assise sur ma chaise et elle bouge un peu en même temps que moi.
Comme c'est un peu le sujet du jour, vous portez, Aloïse, un prénom qui est aussi masculin. Quel choix avez-vous fait si vous vous êtes jamais posé la question?
Alors, la question a l'air intéressante, mais j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai choisi mon prénom?
Non, vous n'avez pas choisi votre prénom. Non, oui. Vous portez un prénom qui marche des deux côtés.
Tout à fait.
Est-ce que vous êtes posé la question comme on se la pose depuis le début de l'émission
sur l'identité.
Avec Paul, sur l'identité?
Je me cherche, moi, je me cherche un peu tous les jours, en faisant un peu tout ce que je fais, tout ce que je vis. Et oui, je me la pose, mais ça m'énerve en fait. Enfin, ça m'énerve, non, mais... j'essaie juste d'être moi. C'est une réponse un peu bateau, mais... Ouais.
Mais alors, écoutez, enfin,
j'essaye d'expliquer un truc, je n'arrive pas absolument pas.
Ce que je veux dire, c'est que côté genre, vous êtes plutôt fluide. Si j'en crois, en tous les cas, le texte d'un de vos morceaux.
Oui, je suis quelqu'un de fluide, moi.
Jimmy, c'est extrait de votre EP. Vous parlez de liberté, d'acceptation et d'amour. Ça donne ça.
Jimmy a réussi son coup dans la rue, à son bras, ça fait le ciné. Et Jimmy, quand j'ai déjà beaucoup, ses plans sont là qu'on mette un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois. Première fois qu'on les observe passer la nuit, Jimmy, quand on lui dit que.
Il s'agit donc d'amour ici entre deux filles avec cette chanson Jimmy. C'est pas une chanson militante, dites-vous, mais c'est une chanson banale. Est-ce que c'est facile, alors je vais vous le demander comme ça, est-ce que c'est facile d'aborder l'homosexualité dans le monde du rap?
Mais en fait, c'est les autres en face de moi qui en font un sujet compliqué ou sujet à 10 000 questions que moi je me pose pas en fait. Quand je dis banal, c'est juste que pour moi, je raconte une histoire d'amour effectivement lesbien que je trouve moi normale et banale dans mon quotidien, dans ce que je vis, ce que je vois. Voilà, c'est juste ça. Donc effectivement, on se pose des questions. Mais en fait, ce qui m'agace, c'est les normes qu'on décide pour moi en fait. J'essaye de me définir... ou de ne pas me définir, en fait. En fait, c'est ça.
Oui, c'est plus ça. En fait, c'est plus de ne pas rentrer dans une catégorie.
Ouais, en fait, voilà, quoi.
En fait, vos routes se croisent. Hein, avec
Et dans le rap, qu'est-ce que j'en sais, si c'est compliqué ou pas, moi, je débarque, je chante ce que je veux et je continuerai à le faire. Et que ce soit du rap, de la chanson, de la folk, de la pop ou de l'électronique, je vais continuer à chanter ce que je veux. Ça, c'est
parce que question catégorie, on aurait pu aussi vous poser celle-là de question. Quel genre musical? J'arrête, ok, on arrête la torture.
Non mais c'est un plaisir. Non, mais... j'ai l'habitude de ces questions où la réponse me demande de me mettre dans une case.
Bien sûr.
C'est pas que ça m'agace, c'est que je comprends pas forcément l'utilité.
Ouais. Je vois Paul B. Preciado à vos côtés qui opine, ouais. Si je peux dire.
Moi, je pense que la meilleure manière de sortir d'une case, c'est l'exploser. En fait, il faut rentrer dedans et paf, l'exploser. Voilà. Ouais. Mais parce qu'en fait, là, je vois en fait que le problème, c'est par tous les moyens, justement, les gens cherchent à vous dire, ouais, vous écrivez sur les lesbiennes, donc vous êtes lesbienne. Et après, qu'est-ce que ça veut dire dans un milieu qui est quand même, surtout masculin, très homophobe et transphobe, etc.
C'était ma question.
Et voilà. Mmh. Et moi, je pense qu'il faut, je pense que vous pouvez vous dire, je m'en fous de ce que vous faites au lit. Vous pouvez vous dire lesbienne politique. Dans le sens, à partir du moment où vous faites une chanson lesbienne, voilà, très bien. Là, en fait, justement, ça doit devenir vraiment comme un manifeste. Et au-delà de vos pratiques...
Dans tous les cas, ça l'est. Puisque si j'exprime et que je partage une chanson sur les ondes et qui raconte ça, c'est que j'ai envie qu'on l'écoute et que ça vive dans les cerveaux de chacun. Mmh. Et plus que dans les cerveaux, dans les peaux et les muscles et et les veines.
Arrêtez, vous m'excitez.
On le disait, Loïse, vous étiez dans 120 battements par minute, tourné pas mal de films. Vous serez prochainement au casting d'une série pour Canal, une série dont vous ne pouvez pas dire un mot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Ah oui, non, mais non, je pouvais pas en dire un mot parce que vous savez, il faut cinéma, il faut attendre d'y être pour être sûr qu'on y est justement. Donc non, c'est une nouvelle série qui s'appelle, bon, j'espère que je peux dire, bon, en tout cas voilà, je prends la liberté, qui s'appelle Possession, réalisée par Thomas Vincent, qui se passe en Israël.
Bien.
C'est pas grand chose, mais c'est quelques mots clés en tout cas.
Déjà.
Aloïs Sauvage.
C'est ça.
Aloïs Sauvage, parlons un peu de musique. Vous savez que nous partageons une passion.
Ah oui?
Mais oui, c'est celle pour l'autotune. Mais vous, contrairement à moi, vous savez vous en servir. C'est difficile à maîtriser.
Voilà, c'est ça. Dès qu'on appuie sur l'autotune, ça donne envie de... J'allais dire brailler, mais je vais dire chanter, Antoine.
Non, vous pouvez dire brailler.
Non. Franchement, pas mal.
C'est vrai?
Ouais, on pourrait peut-être faire un duo, un truc. On peut affiner aussi, également. surtout, on peut affiner.
Allez, Sauvage, vous avez commencé à écrire des poèmes très jeunes, à 13 ans, en l'écoutant, elle.
Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville, y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût de
Diams, c'est Diams qui vous a donné envie de rapper.
En tout cas, je pense qu'elle a influencé mon goût pour la scansion, la rythmique des mots, etc. Oui, j'écoutais beaucoup de rap, pas que. Mais en tout cas, je pense, en fait, inconsciemment, que ça m'a influencé dans mon écriture, en tout cas. Ouais.
Et quels sont les artistes qui vous inspirent aujourd'hui ?
Quels sont les artistes qui m'inspirent aujourd'hui ? C'est une bonne question. Bah, j'aime beaucoup les artistes qui ont des parcours un peu multiples ou un peu protéiformes, parce que c'est ce que j'essaye de faire aussi. Donc je me reconnais là-dedans. Des artistes comme Childish Gambino ou Charlotte Gainsbourg. Enfin, voilà, des artistes qui, justement, encore une fois, essayent peut-être... Je ne sais pas s'ils explosent les cases, mais en tout cas, ils naviguent d'un milieu à l'autre sans se poser la question de leur légitimité.
Aloïs Sauvage, on a annoncé un morceau en live scène mythique de Pop 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 que je vous invite, s'il vous plaît, à rejoindre pas plus tard que tout de suite.
Avec plaisir.
Voilà, posez votre casque, allez-y, dirigez-vous d'un pas altier, mais certain, vers votre micro. Le groupe est au complet, je vois, ouais, tout le monde est prêt à partir. Dès que vous êtes prêt de vous-même, vous me faites un petit signe et je vous lance le pop du départ. Ah bah oui, j'ai lancé le pop.
Il grêle, mes pupilles belles, des peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle, mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, j'empèse les restes d'une vieille fête. Maudis-toi, telle cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, j'empèse les restes d'une vieille fête. Maudis-toi, telle cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas, je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert, quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde, tout est menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus haut qu'un rempart, tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires, que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
Bravo. Merci Aloïs Sauvage. Jimmy, votre EP est disponible et j'en profite pour annoncer que vous serez en concert demain à Bourges avant de poursuivre une tournée. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci Paul B. Preciado, appartement merci. Sur Uranus, c'est édité chez Grasset et c'est un livre Pop Pop Pop. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, bien sûr. Demain dans l'émission, Nicolas et Bruno, le duo du message à caractère informatif et l'humoriste Shirley Soignon. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, vous une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous plutôt, comme disent PNL à la fin de leur tuto jardinage sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast.
Dis ça, non, bon.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.